Voici le premier épisode de ma série de 5 podcasts consacrés à l'année 1982. Cette année-là, les femmes ont leur journée, mais on leur demande aussi de cacher ce sein que l'on ne saurait entrevoir. Cette année-là, à la télévision, on s'engueule, on s'écharpe, on s'insulte. Et cette année-là, le chanteur Renaud est au sommet.
1982, Ondelat raconte sur Europe 1.
En janvier 1982, cela fait 7 mois que les socialistes du président François Mitterrand sont au pouvoir. Et entre autres réformes, son gouvernement a lancé une refonte des programmes de la télévision. Mais début février, tombe un sondage dans le Parisien libéré. Est-ce que vous l'aimez, cette nouvelle télévision? Eh bien non. Non à 75%. Fallait pas bouleverser les habitudes des Français, les amis. Fallait pas.
Vous pensez quoi des programmes de la télé?
Pourri, complètement pourri.
Zéro. Ça dépend, il y a des programmes qui sont pas mal, mais enfin, il y a certains...
Oh, c'est horrible.
Débile.
Moi, je pense que c'est mieux.
Moi, je pense que la télévision s'est améliorée dans un certain point, parce qu'il y a beaucoup plus d'émissions pour les jeunes.
Vous pensez quoi des programmes de la télé?
Mon vieux, hein. Pas bon, hein.
Il n'y a pas assez de variété, déjà. Parce que la politique, c'est pas ça qui va changer les programmes. Je veux dire franchement ce que je pense.
Faut attendre les programmes de 10 heures pour trouver quelque chose d'intéressant. Mais ça a totalement changé.
Les téléspectateurs sont perdus par les nouveaux programmes. Ils regrettent les anciennes figures de la télé de Giscard, Guy Lux et ses 4 émissions. Daniel Gilbert et son populaire Midi Première.
Nous n'avons plus de bons films ou des films trop tard. Sur les 3 chaînes où c'est bien, il y en a un où les 3 sont mauvais. Alors on espère que vous allez nous donner quand même quelque chose de meilleur. À l'heure du déjeuner, on avait Midi... Qu'est-ce que c'était? Oui, on avait Daniel Gilbert, ça nous intéressait pendant qu'on déjeunait. Ça nous distrayait d'avoir un peu de chansons. Et puis maintenant, on n'a plus rien du tout. Alors vraiment, la télévision, elle est presque bouclée tout le temps. C'est plus la peine de payer. Il n'y a plus de variété comme il y avait auparavant. Elle est complètement changée, la télévision. Tout à fait. Pour le changement, c'est un vrai changement. On joue aux cartes, on joue aux ramis, on se distrait comme on peut, jusqu'à 10h30 du soir. Et à 10h30, quand les bons films arrivent, nous, on est couchés.
Il faut dire qu'en 1982, la France n'a que 3 chaînes. Il y a bien des magnétoscopes qui permettent d'enregistrer les programmes et de les regarder quand on veut. Mais pour beaucoup, ils sont encore trop chers. Et donc les Français sont obligés de regarder les programmes de télé qu'on leur impose. Mais Antenne 2 persiste. Elle croit en ces nouveaux programmes. Et notamment en ce programme de variété, aux manettes duquel est l'ami un présentateur d'à peine 40 ans, mais qui connaît assez bien le métier.
Bonsoir. Merci de cet accueil chaleureux et pardon pour cette semaine de retard. C'est la première de Champs-Élysées. Nous nous retrouverons tous les samedis à 20h30 sur Antenne 2 pendant 70 minutes environ, divertissante après une semaine difficile. Vous méritez aussi de vous divertir. Cette émission, sa modeste ambition est de vous faire oublier vos soucis en vous faisant découvrir des visages nouveaux qui seront associés à des locomotives. Je voudrais remercier tous ceux qui sont venus assister à notre émission dans les plus beaux jardins du monde. C'est un journaliste qui l'a écrit ce matin. Les jardins des Champs-Élysées, là où Marcel Proust en 1880 est mené à jouer au cerceau. Et cet espace est très célèbre dans le monde entier déjà, l'espace Cardin. C'est là où nous nous retrouverons. L'émission est publique. Il n'y a pas beaucoup de place, il ne faut pas nous en vouloir, c'est pas Baltar. Mais si vous êtes patient, comme l'émission est hebdomadaire, si vous nous écrivez dès maintenant, j'espère que vous recevrez vos places.
Ah, le savoir-faire de Michel Drucker, quel hôte merveilleux! Il donne immédiatement envie de s'installer dans son canapé et de regarder avec lui ces artistes qui sont ses amis. Et donc, qui deviennent aussi un peu nos amis. À côté de ça, Antenne 2 n'oublie pas les jeunes. Elle lance une émission branchée, Les enfants du rock. Aux commandes, Philippe Manœuvre, Antoine Decaune et Jackie. pour lancer toutes les semaines les enfants du rock, Antenne 2 a fait appel à un speaker célèbre, Léon Zitron, le moins rock de la télé de 1982. Il est là en smoking et de papillon. Cela dit, il est assez drôle. Hein. Et vous apprécierez sa maîtrise de l'anglais.
Tous les jeudis soirs, dorénavant, nous suivrons ensemble les chemins du rock, pavés de rock, bien entendu, mais aussi de jazz, de blues, de punk, de funk, de folk, de synthé, et encore de bandes dessinées et de fantastiques. Tout cela dans cet espace, les enfants du rock, où nous accueillerons les émissions les plus diverses, puisque vous le savez, le rock, c'est beaucoup plus qu'une musique, c'est une manière de vivre.
Antenne 2 tente encore de conquérir la jeunesse, avec toutes les fins d'après-midi à 18h, Platine 45, présentée par Jackie. Une émission entièrement consacrée aux clips vidéo. Parmi les nouveaux programmes de 1982, il y a aussi Mardi Cinéma, présenté par Pierre Tchernia et Jacques Roulan.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver à ce Mardi Cinéma. Vous avez été fidèle à Jeudi Cinéma l'année dernière. J'espère que vous serez fidèle à notre Mardi Cinéma. Eh bien, vous allez y retrouver des éléments nouveaux et des éléments anciens. Parmi les éléments anciens, il y a la présence de vedettes que nous aimons. Et ce soir, j'ai le plaisir de vous dire que Gérard Depardieu est avec nous.
Dans Mardi Cinéma, on joue à l'ambassadeur. C'est-à-dire que les comédiens invités doivent faire deviner des titres de films au public. Et avec Gérard Depardieu et Pierre Richard, c'est très drôle. Et petit à petit, tous ces programmes s'installent dans la tête des Français. À la fin de l'année 82, Antenne 2 dépasse TF1 en audience et restera devant jusqu'à la privatisation de TF1 en 1987.
1982, on de la raconte sur Europe 1.
Allons voir ce qui se passe du côté de TF1, justement, en 1982. La première chaîne aussi invente. Et elle invente un programme qui va faire un carton. Droit de réponse. Mais avant ça, le carton de l'année signé Téléphone, qui sort en juin 1982. Ça, c'est vraiment toi. Ça, c'est vraiment toi de Téléphone, le titre carton de l'année 1982.
On de la raconte sur Europe 1.
Cette année-là, je vous l'ai dit, la télé fait sa révolution. Et sur TF1, ce vent d'air frais se concrétise dans une émission qui va faire beaucoup de buzz. Droit de réponse, de Michel Pollack. Pollack, le maître du débat, c'est un intellectuel inclassable, il est anticonformiste et politiquement très incorrect. Il veut qu'on dise ce qu'on pense franchement. Pas besoin d'être méchant, mais si ça fait polémique, c'est mieux, bien sûr. Le show est extrêmement bien scénarisé. des politiques, des artistes, des écrivains, des chanteurs, parfois des lycéens, qui se retrouvent sur un plateau télé qui ressemble à un bistrot de faubourg dans une atmosphère enfumée où l'alcool coule à flot. Le réalisateur Maurice Dugobson a délibérément conçu un plateau foutoir. Les interventions fusent de tous les côtés. Le 2 janvier 1982, ça fait 3 semaines que l'émission a été lancée. Polak a invité des lycéens et le professeur Choron de Charlie Hebdo, dont le journal va disparaître.
Je dis que ces gens-là n'ont rien à dire. Pourquoi tu les invites?
Parce que tout le monde a le droit de parler, même ceux qui n'ont rien à dire.
Pourquoi tu invites des lycéens qui ne veulent rien dire? Ça ne veut plus rien dire, les lycéens. C'est des merdeux.
Alors, il faut des trous du cul.
Des cons.
Merci, Choron. Bon, allez.
Alors, écoute, excuse-moi. J'espère que la caméra est sur moi.
Bon.
Polak, je veux dire que ce que je viens d'entendre dire là, c'est rien du tout. C'est des mots de ma mère. C'est des mots de ma grand-mère. C'est des mots imprimés qu'on leur a mis dans la tête. Ils n'ont rien à dire, ces jeunes cons-là. Excuse-moi
bon,
du mot.
Allez, pas d'un...
Bon, ils n'ont rien à foutre. Bon, ce sont des petits ânes qu'on nourrit, c'est très bien, et qui ferment leur gueule.
Et c'est pas fini. Le moment le plus tendu de la soirée est atteint lorsque Jean Bourdier, qui est journaliste au journal d'extrême droite Minute, s'en prend à l'équipe de Charlie Hebdo, Ciné, Cavana et le professeur Choron. Bourdier a dans son camp Dominique Jamais et Jean-François Kahn, qui ont appelé l'équipe de Charlie à faire preuve de plus de tolérance. Et là, ça dérape totalement.
Charlie Hebdo était... Moi, personnellement, je trouvais pas ça follement drôle. Je n'étais pas du tout client, même pas regardeur, sauf pour le fameux bal tragique à Colombey, un mort, et qui m'a beaucoup amusé, d'autant qu'il leur a valu des ennuis.
Lapsus, salope.
Non, Ciné, je vous en prie, laissez finir.
Bon, ben...
Alors, silence.
Nous avons ici la démonstration du comportement des gens qui sont pour la liberté d'esprit totale.
Je ne suis pas pour la liberté d'esprit de minute.
Laissez finir, Jean... Non, attendez, je vous demande un peu de silence.
30 minutes, sera pas mort.
Ciné,
vivant. Vous vous faire crever.
Non, écoutez.
Le dessinateur de Charlie, Ciné, vient de dire au journaliste de Minute: je vais vous crever. Et il s'arrête pas là. Hein. Quelques secondes plus tard, il insulte le journaliste Jean-François Kahn.
Et comme les lycéens, je crois à certaines valeurs, et la liberté est une valeur auquel je crois.
Nous, les damnés de la terre, on a le droit de jacter, et on vous emmerde. Et on n'emmerde jamais, et on emmerde. Bon. Et on emmerde minute.
Tandis
et
que
le premier qui essaye de
tandis
venir
que moi, je vous emmerde. Tandis que
tout ça, un samedi soir, à 20h30, à la place des shows qui ont fait le succès de TF1 avec Sheila ou Johnny Hallyday. Autant vous dire que ce soir de janvier 82, la France est choquée.
Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Ben, qu'ils sont... Ils n'ont pas redoré leur blason.
Qui?
Ben, les gars de Charlie Hebdo.
C'est un scandale. Absolument, ça c'est un avis absolument unanime.
Je suis d'accord avec vous.
Est-ce que vous avez été tenté de tourner le bouton?
Oh, mais comment donc? J'ai voulu quand même aller jusqu'au bout.
Pourquoi?
Voir jusqu'à quelle limite on pouvait se permettre de tenir de tels propos, mais pas dans une émission publique.
J'ai trouvé ça quand même assez grossier. Hein.
Ah oui.
Parce que, bon, on peut dire ce qu'on pense, mais dire des gros mots, je suis pas ambitieuse, mais ça m'a un peu choqué quand même. Hein.
Bon. Les Français sont choqués, mais ils ont regardé jusqu'au bout quand même. Deux jours après cette émission très bouillonnante, Michel Polak est invité de la matinale d'Yvan Levaille sur Europe 1.
Alors, est-ce que vous êtes fier de ce qui s'est passé samedi?
Moi, je suis jamais fier de rien parce que je trouve que la fierté, c'est déjà très dangereux. Non, je suis pas fier, j'ai fait mon métier, c'est tout. Ni fier, ni honteux.
Vous avez lu les journaux, là, hein?
Alors j'ai commencé de les lire et je dois dire qu'alors là, c'est là où je ne suis pas fier de ce pays, parce qu'alors accorder la première page des journaux et des tartines pareilles à un événement qui n'est jamais qu'une heure et demie de télévision au milieu de milliers d'heures de télévision annuelle, c'est tout à fait grotesque. Effectivement, prendre la place de la Pologne avec une petite émission de télé, c'est ridicule.
Et évidemment, La question est déjà sur le tapis, en 1982. Est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce qu'on peut tout montrer à la télévision?
Je trouve que la télévision est faite pour être absolument l'événement en direct. Et bon, ce qui se passait là, d'une certaine façon, était un événement, pas toujours un événement très heureux, mais je trouve qu'il fallait tout montrer. Quand vous pensez à ce qu'étaient les discussions dans les cafés du commerce en France autrefois, c'était l'essentiel de la politique. Vous aviez dans le même bistrot le rouge et le conservateur, vous aviez le proche du curé et puis le laïc. Bon, tout le monde savait que ces gens-là s'engueulaient, se disaient des injures. Les gros mots qu'on entendait hier, on les entendait dans les bistrots en France quand on s'engueulait avant-guerre et même il y a encore quelques années. Et cela faisait les meilleurs amis du monde après. Ils se retrouvaient autour d'une partie de pétanque dans le midi. Vraiment, je vous dis, le choc de la mort d'un journal, c'est quelque chose qui a été très mal vécu par une équipe qui, d'ailleurs, depuis quelques mois, effectivement, enfermée dans ses problèmes, avait un petit peu perdu le contact de la réalité extérieure. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils avaient 10 millions de personnes qui étaient en train de les regarder, et c'est ça qu'ils ont oublié.
L'année 1982.
Les Londoniens de Clash avec Rock the Casbah en 1982.
Europe 1. 1982, on de la traconte sur Europe 1.
Le 8 mars 1982 a lieu la toute première journée internationale de la femme. À cette occasion, Yvan Levaille reçoit sur Europe 1 la ministre des Femmes, Yvette Roudy.
Europe 1, Yvan Levaille reçoit Madame Yvette Roudy, ministre des Droits de la Femme.
Oh, Madame Roudy, trois questions simples. Vous avez entendu la revue de la presse. Pourquoi cette fête? Pourquoi un ministre des Femmes en France? Puis vous me direz aussi ce que vous voulez encore faire pour les femmes, si tout n'a pas été fait. Pourquoi cette fête?
Pourquoi cette fête? Eh bien, mais vous avez vu la revue de la presse ce matin, il y a beaucoup de choses à dire, monsieur Levaille, beaucoup de choses, et on n'en parle pas assez. Alors, il fallait marquer d'une façon un petit peu solennelle qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et qu'il faut en parler.
Comme à Moscou.
Il faut en parler, comme à Copenhague, comme à Vienne où j'étais la semaine dernière. Vous savez que l'Autriche, depuis tout le temps, célèbre cette journée. J'étais avec mon homologue à Vienne il y a 8 jours. C'est depuis 1910 là-bas que l'on en parle. C'est la même chose dans les pays nordiques. C'est aussi la même chose dans les pays de l'Est. C'est aussi la même chose aux États-Unis. D'ailleurs, l'idée vient d'une grève qui s'est déroulée aux États-Unis. Donc, par conséquent, nous devions marquer d'une façon absolument solennelle que beaucoup de choses ne vont pas pour les femmes et faire sortir de l'invisibilité les luttes des femmes. Faire sortir de l'invisibilité cette double journée qu'elles ont pour celles qui travaillent à l'extérieur, qui en rentrant chez elles ont un travail ménager, parce qu'elles n'ont pas, comme vous, monsieur Levaille, la chance d'avoir un mari qui fait une fois par an la vaisselle le soir. Donc c'est effectivement, il faut que toutes ces qu'on sache enfin qu'il y a des choses à faire.
Mais quand savez-vous?
Il y a toutes les inégalités de salaire.
Hier après-midi.
Il y a 30% de différence entre les salaires. Il y a les inégalités devant la formation, 300 métiers pour les hommes, 30 pour les femmes. Il y a toutes ces inégalités. Alors, il faut se battre quotidiennement, d'une façon permanente, mais je suis très heureuse de voir que le débat, s'il sort avec cette puissance et cette force, comme la revue de presse le montre ce matin, c'est qu'il est réel.
Et en 1982, Yvette Roudy a encore beaucoup de combats à mener. Écoutez bien, ça ne vient pas de la préhistoire, hein. C'était en 1982.
Alors je voudrais savoir ce que vous voulez encore faire en revenant au fond sur, je ne dis pas la pauvreté de votre combat, mais la pauvreté de vos moyens et les difficultés que vous allez encore rencontrer. Je regarde, par exemple, parmi les candidats aux élections cantonales, vous avez vu la proportion d'hommes très supérieure aux femmes. Vous êtes ici dans une station Europe 1, je veux dénoncer personne, mais si je vous disais, le directeur général, c'est un homme. Hein, le président directeur général, c'est un homme.
Ça vous paraît normal?
Le directeur d'antenne, c'est un homme.
Est-ce que ça vous
paraît? Et on peut continuer. Et regardez, les femmes, aucun rôle dans la hiérarchie ici.
On les invite à prendre le café.
Alors, que pouvez-vous faire?
Quand ce n'est pas elles qui font le café, d'ailleurs, je suis sûr que c'est elles qui vont le faire. Eh bien, il est important que les femmes prennent conscience de leurs droits. Il est important qu'elles sachent que si elles ne prennent pas leurs affaires elles-mêmes en main, leurs affaires n'avanceront pas beaucoup.
Chez Mme Yvette Roudy, qui fait la vaisselle?
Tout le monde. On partage. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui, sans ça je ne serais pas ici, comme vous l'imaginez. Ça dépend beaucoup du compagnon que l'on peut avoir.
Le 8 mars 1982, la CGT emboîte le pas de cette première journée internationale de la femme en France.
Au premier rang de cette manifestation CGT, deux hommes seulement, Georges Segui et Henri Krasucki, qui ont laissé la parole à une femme, Jacqueline Léonard, la déléguée femme de la CGT. Je vous propose de l'écouter.
Aujourd'hui, c'est une grande journée d'action avec multiples interventions dans les entreprises en direction du patronat pour satisfaire les revendications les plus urgentes qui tiennent aux grandes revendications mais aussi aux revendications plus spécifiques des femmes dans les entreprises. Et cette journée doit marquer un temps fort de cette action permanente pour obtenir satisfaction.
Vous n'avez pas l'impression que des slogans comme « travail égal, salaire égal » sont un peu désuets aujourd'hui, à côté du désir de changement et du désir de libération des femmes?
Mais précisément, le désir de changement, c'est changer tout ça, c'est discrimination de salaire, c'est discrimination dans l'emploi, ces discriminations dans les conditions de travail qui font que les femmes sont encore aujourd'hui dans le travail en situation d'infériorité alors qu'elles aspirent à vivre libre, égale, indépendante. Et cette journée doit contribuer à faire avancer les choses.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1982.
Je vous ai parlé de la première journée internationale de la femme qui a eu lieu le 8 mars 1982. Et la preuve que tout reste à faire en la matière, quelques mois plus tard, il est question de ce qu'une petite nancéenne doit porter, ou pas, au nom des bonnes mœurs. À Nancy, une jeune aide-comptable de 23 ans se rend au travail avec un chemisier transparent, et sous ce chemisier, on devine sa paire de nichons sans soutien-gorge. Sa supérieure est choquée. Elle lui signale qu'elle doit changer de tenue. Mais le lendemain, elle va plus loin. Elle lui envoie une lettre recommandée pour la réprimander de cette tenue inappropriée. La jeune comptable est outrée. Enfin, comment ose-t-elle? C'est une atteinte à ma vie privée, à ma liberté de femme. Ben, puisque c'est ça, j'irai au travail dans la même tenue demain. Sans soutif et en chemisier transparent. Le résultat ne se fait pas attendre. Virée sur le champ.
Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Du moment qu'elle n'était pas toute nue, bon bah, qu'elle avait son chemisier, moi je trouve pas ça indécent. Moi j'en mets un quand même. Non mais celui que ça plaît, moi je suis pas contre.
Si elle a envie de se promener comme ça, ça regarde pas son patron. Quand on voit dans la rue les gens comment ils se promènent des fois, je trouve que c'est un peu exagéré là. J'en vois combien de fois qu'ils se promènent dans la rue à l'opéra. Elles ont un corsage en dentelle, pas de soutien-gorge dessous, elles se promènent comme ça, cet été, j'en ai vu.
Je trouve que c'est complètement stupide de l'avoir condamnée.
Pourquoi?
Bon, il me semble qu'actuellement, il y a beaucoup de femmes qui vivent, surtout des jeunes femmes qui peuvent se permettre de ne pas porter de soutien-gorge, que c'est une entrave et qu'en vacances, je n'en porte pas. Il me semble qu'une poitrine gonflée exagérément par un soutien-gorge et une poitrine libre, c'est une question de convention. Hein.
Ça peut choquer certains patrons, c'est un fait certain. Enfin, quand même, moi, je pense que vous pouvez faire ce que vous voulez.
Vous en mettez, vous ?
Ah oui.
Pourquoi ?
Ah oh bah parce que ça, je me promènerai pas sans. Hein.
La jeune aide-comptable reçoit beaucoup de soutien. Mais attention, il y a aussi des gens qui soutiennent sa direction. Ce monsieur, par exemple, interrogé par Europe 1.
Bah écoutez, de plus en plus, les femmes se dévêtissent. Bah c'est vrai, ça gêne dans le travail, c'est des accidents de travail, ça.
Vous êtes un homme, pourtant, bah, ça.
Je suis un homme, oui, mais dans le travail, on a pas envie d'être distrait comme ça. Puis quand il y en a une dans le mini-jupe, bah, elle cause pas mal d'accidents. Hein, parce que les gens, ils louchent de côté, puis ils voient pas où ils mettent leurs mains.
La jeune femme licenciée porte l'affaire devant les prud'hommes de Nancy. Et elle perd. Et en appel, elle perd encore. En novembre 1982, la cour d'appel de Nancy s'explique. Les femmes seins nus ne sont tolérées que dans les piscines ou à la plage, mais pas sur les lieux de travail, sinon pour les artistes de music-hall ou de cabaret. Et pour la cour, la jeune femme n'avait même pas l'excuse de la canicule, puisque les faits se sont déroulés en hiver. L'avocat de la jeune femme s'insurge contre cette décision.
C'est un arrêt qui m'inquiète tout d'abord parce que la cour d'appel n'a pas limité le contrôle de l'employeur sur les tenues de son personnel. À la limite, avec cette jurisprudence, un employeur pourra exiger demain que tout son personnel féminin soit en col roulé ou en jupe longue parce qu'il devient le seul juge de la décence. La cour d'appel a rendu son arrêt en se basant sur la conformité de la tenue de ma cliente à ce qui paraît convenable ou non convenable. Je dis avec beaucoup de respect à la cour d'appel que ce qui est convenable ou non convenable, cela relève ni de la cour d'appel ni de l'employeur tant que ça n'a pas de conséquences sur l'entreprise, mais de ce que ma cliente juge convenable pour elle-même ou non. On ne peut pas considérer qu'une jeune femme, à notre époque, parce qu'elle s'habille sans soutien-gorge ou un chemisier, est une dragueuse, est une personne sans moralité. On ne peut pas dire cela. Je dis qu'il y a, à cet égard, entre la décision de la cour d'appel et la réalité sociale, c'est-à-dire la façon dont les gens vivent tous les jours dans les entreprises, dans les magasins, un fossé qui me paraît énorme. À notre époque, on n'est pas une dragueuse, une dévergondée, une personne sans moralité, parce qu'on n'est pas bien.
Quelquefois, si douce, quand la vie me touche, comme nous tous, alors si douce, quelquefois si dure. Que chaque blessure longtemps me dure, longtemps me dure.
C'était Julien Clerc en 1982 avec « Femme, je vous aime ».
1982, on de la raconte sur Europe 1.
Du 5 au 24 janvier 82, Renaud donne une série de concerts à l'Olympia.
Elle a mis sur le mur, au-dessus du berceau, une photo d'Arthur. Rimbaud, avec ses cheveux en brosse, elle trouve qu'il est beau. Dans la chambre du gosse, bravo, déjà les petits anges sur le papier peint, je trouvais ça étrange. Je dis rien, elles me font marrer, ces idées loufoques depuis qu'elle est en cloque. Elle se réveille la nuit, veut bouffer des fraises. Elle a des envies balèzes. Moi, je suis au petit soin, je me défonce en huit pour qu'elle manque de rien. Ma petite, c'est comme si je pissais dans un violoncelle, comme si j'existais plus. Pour elle, je me retrouve planté tout seul dans mon froc depuis qu'elle est en cloque.
Gros succès de Renaud cette année-là. Mais déjà des fêlures apparaissent. Renaud n'a que 30 ans, il est le jeune papa de Lolita, mais il est éreinté. Il cherche un second souffle. Alors, comme le chanteur Antoine, Renaud décide de larguer les amarres pour une année sabbatique, loin du show business et des médias. En septembre 1982, les Séchants embarquent sur une goélette de 16 mètres.
Je veux le foutre à l'eau là, bientôt, en France, puis partir jusqu'à ailleurs, voir si ailleurs c'est mieux. Si c'est mieux, je reste ailleurs. Si c'est moins bien, je reviens ici. Mais je veux aller voir plein d'ailleurs. Enfin, je veux un peu faire le tour du monde, quoi. Mais en revenant ici pour bosser, puis parce que j'aime bien ici aussi. J'aime bien Paris, j'aime bien la ville, mais ça fait 30 ans que je vis dedans et j'ai envie de voir d'autres horizons, quoi.
Mais le Titi parisien n'a pas vraiment le pied marin. Deux mois après son départ, Renaud retrouve la terre ferme et les zincs parisiens pour la promotion de son disque live « Un Olympia pour moi tout seul ». Et c'est comme ça que le 5 novembre 82, Renaud se retrouve face à Gilles Schneider sur Europe 1. On est loin de l'ambiance du fameux droit de réponse de Pollack, hein, auquel d'ailleurs Renaud a participé en janvier. Le ton est beaucoup plus posé et j'ai trouvé ce passage dans les archives d'Europe 1. Renaud détendu.
Alors Renaud, ça fait combien de temps que vous chantez ?
Que je chante, ça fait...
Non, mais professionnellement.
Professionnellement, ça fait 7 ans.
7 ans.
75.
Ouais. Vous avez entendu hier Charles Trenet, qui a été décoré par M. Jacques Lang de la Légion d'honneur pour l'ensemble de ses œuvres. Est-ce que vous pouvez imaginer deux secondes que ce genre de choses puisse vous arriver un jour, vous ?
Non, j'imagine pas.
Non ?
Enfin...
Mais ça vous ferait plaisir ?
À ma mère surtout, ça ferait plaisir.
Non, je vous provoque un peu là, parce que dans vos chansons, et puis aussi, vous vous présentez un peu comme tel, vous êtes parfois un peu violent et certains disent anard carrément. Pourtant, quand on
carrément.
Vous regarde, on vous regarde comme ça, hein, vous trouvez pas, il est doux, il est gentil.
Mais c'est parce que je suis timide.
C'est vrai ça ?
C'est parce que je suis timide dans la vie et que je suis pas un mec plutôt pas violent que j'ai besoin d'exprimer cette violence, de la défouler. Alors, sur scène, dans mes chansons, j'en profite.
Oui.
Je me venge.
Vous vous vengez, c'est de la vengeance ?
Non, c'est du défoulement, quoi. Mmh.
Ben vous êtes dans le système, vous l'acceptez, vous avez une maison de disques, vous venez ici.
Ah ouais, je suis dedans, ouais, mais c'est le meilleur moyen pour lutter contre, c'est d'être dedans.
D'être dedans. Et c'est sincère ou bien c'est parce que c'est un bon filon ?
Ouais,
c'est sincère. Renaud, à juste titre, peut-être, certains vous appellent affectueusement le bruant des années 80.
C'est gentil.
C'est gentil, mais
pour
c'est
moi, c'est pour lui, je sais pas, mais...
C'est une lourde succession. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes un petit peu de cette veine-là ?
Ah, j'aime bien si... je ne sais pas si je suis de cette veine-là, mais enfin, si je suis, c'est peut-être justifié, parce que je veux dire, ça a été un de mes maîtres. J'ai découvert à 15 ans. Et...
À 15 ans, vous avez découvert Bruant, comment ?
Oui. Ben, quand j'ai quitté l'école, j'ai quitté l'école à 16 ans.
Oui.
Et c'est pas des trucs qu'on apprend à l'école.
Non.
Alors j'ai appris tout seul, j'ai découvert tout seul.
Comme ça, en fouillant dans
mon... Ouais, ben, quand j'ai quitté l'école, j'ai commencé à travailler à droite à gauche pour gagner ma vie. Gâcher ma vie et j'ai travaillé dans une librairie. Alors j'ai
vous avez découvert Bruant.
Je suis enrichi tout seul quoi, parce que Corneille, Molière, tout ça à l'école, c'était pas vraiment ce qui m'intéressait le plus.
Vous avez préféré Bruant.
Je préférais Bruant, oui.
Alors ça n'est plus vous la poésie des boulevards et des portes de Paris, mais de la banlieue et des cités, c'est Renaud.
Au rez-de-chaussée, dans mon HLM, il y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passe ses nuits dans les caves avec son Beretta, traque les mots qui chouravent l'opinard aux bourgeois. Il se recrée l'Indochine dans sa petite vie de peine cul. Sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus. Il est tellement givré que même dans la Légion, ils ont fini par le jeter. C'est vous dire s'il est con. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM. La montre du huitième, le HLM. Au premier...
premier dans mon HLM. Y'a John Cat Dynamique, costard en alpaga, celui qui a payé 20 briques, 102 pièces plus loggia. Il en a chié 20 ans pour en arriver là. Maintenant il est content, mais il parle de se casser. Toute façon il peut pas, il lui reste à payer le lave-vaisselle, la télé et la sûre pour ses chats. Parce que naturellement, ce bon contribuable centriste, il aime pas les enfants, c'est vous dire s'il est triste. Putain ce qu'il est blême, mon HLM et l'amour du huitième, le HLM au deuxième.
La suite de notre visite privée de l'année 1982, dans le deuxième épisode d'Ondelat raconte une année.
Retrouvez Ondelat raconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.